De Maupassant, l'inconnu. On parlait de bonne fortune et chacun en racontait l'étrange. Rencontres surprenantes et délicieuses, en wagon, dans un hôtel, à l'étranger, sur une plage. Les plages, au dire de Roger des Annettes, étaient singulièrement favorables à l'amour. Gontran, qui se taisait, fut consulté. Oh, c'est encore Paris qui vaut le mieux, dit-il. Il en est de la femme comme du bibelot. Nous l'apprécions davantage dans les endroits où nous ne nous attendons point à en rencontrer. Mais on en rencontre vraiment de rares qu'à Paris. Il se tut quelques secondes, puis reprit. Christi, mais c'est gentil. Allez un matin de printemps dans nos rues. Oh, elles ont l'air d'éclore comme des fleurs, les petites femmes qui trottent le long des maisons. Oh, le joli, joli, joli spectacle! On sent la violette au bord des trottoirs, la violette qui passe dans les voitures lentes, poussées par les marchandes. Il fait gai par la ville, et on regarde les femmes. Christi de Christi, oh, comme elles sont tentantes, avec leurs toilettes claires, leurs toilettes légères qui montrent la peau. On flâne le nez au vent et l'esprit allumé. On flâne et on flaire et on guette. C'est rudement bon ces matins-là. On la voit venir de loin. On la distingue, on la reconnaît à 100 pas, celle qui va nous plaire de tout près. À la fleur de son chapeau, au mouvement de sa tête, à sa démarche, on la devine. Elle vient, on se dit « attention, en voilà une ». Et on va au-devant d'elle en la dévorant des yeux. Est-ce une fillette qui fait les courses du magasin, une jeune femme qui vient de l'église ou qui va chez son amant? Qu'importe. La poitrine est ronde, sous le corsage transparent. Oh, si on pouvait mettre le doigt dessus, le doigt ou la lèvre. Le regard est timide ou hardi, la tête brune ou blonde, qu'importe. L'effleurement de cette femme qui trotte vous fait courir un frisson dans le dos. Et comme on la désire jusqu'au soir, celle qu'on a rencontrée ainsi. Certes, j'ai bien gardé le souvenir d'une 20aine de créatures vues 1 fois ou 10 fois de cette façon, et dont j'aurais été follement amoureux si je les avais connues plus intimement. Mais voilà, celles qu'on chérirait éperdument, on ne les connaît jamais. Avez-vous remarqué ça? C'est assez drôle. On aperçoit, de temps en temps, des femmes dont la seule vue vous ravage le désir. Mais on ne fait que les apercevoir, celles-là. Moi, quand je pense à tous les êtres adorables que j'ai coudoyés dans les rues de Paris, j'ai des crises de rage à me pendre. Mais où sont-elles? Qui sont-elles? Où pourrait-on les retrouver, les revoir? Un proverbe dit qu'on passe souvent à côté du bonheur. Eh bien, moi je suis certain que j'ai passé plus d'une fois à côté de celle qui m'aurait pris comme un lino avec l'appât de sa chair fraîche. Roger des Annettes avait écouté en souriant. Il répondit, « Oh, je connais ça aussi bien que toi. Voilà même ce qui m'est arrivé à moi il y a 5 ans. Environ en 5 ans, je rencontrais pour la première fois sur le pont de la Concorde, une grande jeune femme, un peu forte, qui me fit un effet étonnant. C'était une brune grasse, avec des cheveux luisants, mangeant le front et des sourcils, liant les deux yeux sous leur grand arc allant d'une tempe à l'autre. Un peu de moustache sur les lèvres faisait rêver, comme on rêve à des bois aimés en voyant un bouquet sur une table. Elle avait la taille très cambrée, la poitrine très saillante, présentée comme un défi, offerte comme une tentation. L'œil était pareil à une tache d'encre sur de l'émail blanc. Oh, ce n'était pas un œil, mais un trou noir, un trou profond ouvert dans sa tête, dans cette femme par où on voyait en elle, on entrait en elle. Oh, l'étrange regard opaque et vide, sans pensée, mais si beau. J'imaginais que c'était une juive. Je la suivis. Beaucoup d'hommes se retournaient. Elle marchait en se dandinant, d'une façon peu gracieuse mais troublante. Elle prit un fiacre, place de la Concorde. Et je demeurai comme une bête à côté de l'obélisque. Je demeurai frappé par la plus forte émotion de désir qui m'eût encore assailli. J'y pensais pendant 3 semaines au moins, puis je l'oubliais. Je la revis 6 mois plus tard, rue de la Paix. Et je sentis, en l'apercevant, une secousse au cœur comme lorsqu'on retrouve une maîtresse follement aimée jadis. Je m'arrêtai pour bien la voir venir. Quand elle passa près de moi à me toucher, il me sembla que j'étais devant la bouche d'un four. Puis, lorsqu'elle se fut éloignée, j'eus la sensation d'un vent frais qui me courait sur le visage. Je ne la suivis pas. J'avais peur de faire quelque sottise, peur de moi-même. Elle hanta souvent mes rêves. Tu connais ces obsessions-là. Oh, je fus 1 an sans la retrouver. Puis un soir, au coucher du soleil, vers le mois de mai, je la reconnus qui montait devant moi l'avenue des Champs-Élysées. L'arc de l'étoile se dessinait sur le rideau de feu du ciel. Une poussière d'or, un brouillard de clarté rouge voltigeait. C'était un de ces soirs délicieux qui sont les apothéoses de Paris. Je la suivais avec l'envie furieuse de lui parler, de m'agenouiller, de lui dire l'émotion qui m'étranglait. 2 fois, je la dépassais pour revenir. Et 2 fois, j'éprouvais de nouveau, en la croisant, cette sensation de chaleur ardente qui m'avait frappé rue de la Paix. Elle me regarda. Puis je la vis entrer dans une maison de la rue de Presbourg. Je l'attendis 2 heures sous une porte. Elle ne sortit pas. Je me décidai alors à interroger le concierge. Il eut l'air de ne pas me comprendre. « Ça doit être une visite, » dit-il. Et je fus encore 8 mois sans la revoir. Or, un matin de janvier, par un froid de Sibérie, je suivais le boulevard Malesherbes en courant pour m'échauffer, quand au coin d'une rue, je heurtai si violemment une femme qu'elle laissa tomber un petit paquet. Oh, je voulus m'excuser. Oh, c'était elle. Je demeurai d'abord stupide de saisissement. Puis, lui ayant rendu l'objet qu'elle tenait à la main, je lui dis brusquement « Bien, je suis désolé, ravi, madame, de vous avoir bousculé ainsi. Voilà plus de 2 ans que je vous connais, que je vous admire, que j'ai le désir le plus violent de vous être présenté, et je ne puis arriver à savoir qui vous êtes ni où vous demeurez. Excusez de semblables paroles, attribuées à une envie passionnée d'être au nombre de ceux qui ont le droit de vous saluer. Un pareil sentiment ne peut vous blesser, n'est-ce pas ? Non, vous ne me connaissez point. Je m'appelle le baron Roger des Annettes. Informez-vous, on vous dira que je suis recevable. Maintenant, si vous résistez à ma demande, vous ferez de moi un homme infiniment malheureux. Voyons, soyez bonne. Donnez-moi, indiquez-moi un moyen de vous voir. » Elle me regardait fixement, de son œil étrange et mort, et elle répondit en souriant « Donnez-moi votre adresse, j'irai chez vous. » Oh, je fus tellement stupéfait que je dus le laisser paraître. Mais je ne suis jamais longtemps à me remettre de ces surprises-là, et je m'empressai de lui donner une carte qu'elle glissa dans sa poche d'un geste rapide, d'une main habituée aux lettres escamotées. Je balbutiais, redevenu hardi. « Mais quand vous reverrai-je ? » Elle hésita, comme si elle eût fait un calcul compliqué, cherchant sans doute à se rappeler heure par heure l'emploi de son temps. Puis elle murmura « Mais un dimanche matin, voulez-vous ? Oh, je crois bien que je veux. » Et elle s'en alla. Après m'avoir dévisagé, jugé, pesé, analysé, de ce regard lourd et vague qui semblait vous laisser quelque chose sur la peau, une sorte de glu, comme s'il eût projeté sur les gens un de ces liquides épais dont se servent les pieuvres pour obscurcir l'eau et endormir leur proie. Je me livrais jusqu'au dimanche à un terrible travail d'esprit pour deviner ce qu'elle était et pour me fixer une règle de conduite avec elle. Mais devais-je la payer? Comment? Je me décidai à acheter un bijou, un joli bijou, ma foi, que je posais dans son écrin sur la cheminée. Et je l'attendis après avoir mal dormi. Elle arriva vers 10 heures, très calme, très tranquille, et elle me tendit la main comme si elle m'eût connu beaucoup. Je la fis s'asseoir, je la débarrassai de son chapeau, de son voile, de sa fourrure, de son manchon. Puis je commençai, avec un certain embarras, à me montrer plus galant, car je n'avais point de temps à perdre. On ne se fit nullement prier, d'ailleurs, et nous n'avions pas échangé 20 paroles, que je commençai à la dévêtir. Elle continua toute seule cette besogne malaisée que je ne réussis jamais à achever. Je me pique aux épingles, je serre les cordeaux en des nœuds indéliables au lieu de les démêler, et je brouille tout, je confonds tout, je retarde tout, et je perds la tête. Oh, mon cher ami, connais-tu dans la vie des moments plus délicieux que cela, quand on regarde d'un peu loin par discrétion, pour ne point effaroucher cette pudeur d'autruche qu'elles ont toutes, celle qui se dépouille pour vous de toutes ces étoffes bruissantes tombant en rond à ses pieds, l'une après l'autre? Et quoi de plus joli aussi que leurs mouvements pour détacher ces doux vêtements qui s'abattent, vides et mous, comme s'ils venaient d'être frappés de mort? Comme elle est superbe et saisissante, l'apparition de la chair, des bras nus et de la gorge, après la chute du corsage, et combien troublante la ligne du corps, devinée sous le dernier voile. Mais voilà que tout à coup, j'aperçus une chose surprenante, une tache noire entre les épaules, car elle me tournait le dos, une grande tache en relief très noire. J'avais promis d'ailleurs de ne pas regarder. Qu'était-ce? Je n'en pouvais douter pourtant, et le souvenir de la moustache visible, des sourcils unissant les yeux de cette toison de cheveux qui la coiffait comme un casque, aurait dû me préparer à cette surprise. Je fus stupéfait cependant et hanté brusquement par des visions et des réminiscences singulières. Il me sembla que je voyais une des magiciennes des mille et une nuits, un de ces êtres dangereux et perfides qui ont pour mission d'entraîner les hommes en des abîmes inconnus. Je pensais à Salomon faisant passer sur une glace la reine de Saba pour s'assurer qu'elle n'avait point le pied fourchu. Et quand il eut fallu lui chanter ma chanson d'amour, je découvris que je n'avais plus de voix, mais plus un filet, mon cher. Pardon, j'avais une voix de chanteur du pape, ce dont elle s'étonna d'abord et se fâcha ensuite absolument, car elle prononça, en se rhabillant avec vivacité, « Il était bien inutile de me déranger. » Je voulus lui faire accepter la bague achetée pour elle, mais elle articula avec tant de hauteur. « Mais pour qui me prenez-vous, monsieur ?» Que je devins rouge jusqu'aux oreilles de cet empilement d'humiliation. Et elle partit sans ajouter un mot. Or, voilà toute mon aventure. Mais ce qu'il y a de pis, c'est que maintenant, je suis amoureux d'elle et follement amoureux. Je ne puis plus voir une femme sans penser à elle. Toutes les autres me répugnent, me dégoûtent, à moins qu'elles ne lui ressemblent. Je ne puis poser un baiser sur une joue sans voir sa joue à elle, à côté de celle que j'embrasse, et sans souffrir affreusement du désir inapaisé qui me torture. Elle assiste à tous mes rendez-vous, à toutes mes caresses qu'elle me gâte, qu'elle me rend odieuse. Elle est toujours là, habillée ou nue, comme ma vraie maîtresse. Elle est là, oui, tout près de l'autre, debout, couchée, visible, mais insaisissable. Et je crois maintenant que c'était bien une femme ensorcelée qui portait entre ses épaules un talisman mystérieux. Qui est-elle? Je ne le sais pas encore. Je l'ai rencontrée de nouveau deux fois. Je l'ai saluée. Elle ne m'a point rendu mon salut. Elle a faim de ne pas me reconnaître. Qui est-elle? Une Asiatique, peut-être? Sans doute une Juive d'Orient? Oui, une Juive. J'ai dans l'idée que c'est une Juive, mais pourquoi? Ah, voilà, voilà, pourquoi? Je ne sais pas. 27 janvier 1885.